voilà, je vous invite à ouvrir vos Bibles, donc à Colossiens, chapitre 3, versets 6 à 17. Donc Colossiens, chapitre 3, versets 6 à 17. Et donc ce passage va nous parler, comme vous l'avez peut-être compris, de par les chants qu'on a pu chanter ensemble ce matin, va nous parler de l'amour et de l'unité. Et va nous appeler à travailler à l'unité, justement. Donc Colossiens chapitre 3, verset 6. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la couleur, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre. Mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et s'il a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, ou de l'amour, qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Voilà donc le passage de ce matin. Alors la plupart d'entre nous présents ce matin, je le crois, je l'espère, nous sommes convertis. C'est-à-dire qu'un jour, nous avons fait le choix de suivre Jésus. Nous l'avons accepté comme notre sauveur personnel. Et nous avons décidé de lui donner notre vie en retour de son amour. Et suite à cette conversion, je l'espère, nous sommes en chemin. Nous ne sommes pas à l'arrêt. Nous sommes passés du royaume des ténèbres, le jour de notre conversion, au royaume de lumière. Et donc nous appartenons à ce royaume de lumière. Et ce jour-là, ce jour de notre conversion, Dieu nous a d'une certaine manière amenés au pied d'une montagne en nous disant « Va vers le sommet. Viens plus près de moi. Tu es encore sur terre pour un moment, combat le bon combat. » Et ce sommet vers lequel nous marchons, c'est la sanctification. Alors, oui, nous sommes acceptés par Dieu et c'est absolument fondamental. Oui, il nous a lavés de nos péchés. Et nous sommes enfants de Dieu. Et ça, c'est une vérité. Et nous l'avons vu dans les passages précédents. Pour ceux qui étaient là il y a quelques temps déjà, j'avais déjà parlé de Colossiens, donc je suis Colossien depuis quelques temps. Et on avait vu cet amour extraordinaire de Dieu qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu et nous sommes sauvés. Mais il nous arrive toujours de pécher et Dieu nous dit sans arrêt, relève-toi, avance, je suis avec toi, je t'aime, appuie-toi sur moi, avec mon aide tu vas progresser. Et nous avançons aujourd'hui jour après jour, alors chacun suit un chemin qui lui est propre, on va avoir une famille qui est la nôtre, on va avoir un travail qui est le nôtre, un lieu d'habitation. Mais pour ceux qui croient, nous avons tous ce sommet vers lequel nous allons. D'ailleurs, même si le chemin exactement parcouru n'est pas exactement le même, la manière d'y aller reste la même, à savoir le regard fixé sur le Seigneur. Et en suivant donc ce que Dieu nous dit, et la parole de Dieu est précisément là pour nous parler. Et c'est cette même parole qui, ce matin, nous dit que dans cette marche, le plus important, c'est l'amour. Le passage va nous le dire, mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour. Alors, le passage que nous avons étudié la fois précédente, en tout cas quand moi j'ai apporté quelque chose, nous parlait de l'amour entre Dieu et nous. Il nous parlait de combien c'était fondamental de s'enraciner dans le Seigneur. On avait vraiment cette relation entre Dieu et nous. Et cette partie-là de l'Épître aux Colossiens nous parle de l'amour vers les autres qui sont avec nous aujourd'hui sur Terre. Et Dieu, dans ce passage, va nous interpeller en nous appelant non pas à l'indépendance, non pas à grandir là où nous sommes, tout seuls dans notre coin, mais il va vraiment nous interpeller, nous appeler à l'amour vers les autres. Et cet amour, quand il est présent, quand il est actif, va faire tomber, comme on l'a chanté, va faire tomber les blocages, va faire tomber les barrières, et va nous permettre d'être plus forts. Ensemble. Et donc c'est ce que nous allons voir ce matin. Donc nous allons voir déjà, dans un premier temps, comment cet appel à l'amour est personnel, comment Dieu nous dit, va nous engager à faire quelque chose et pas forcément attendre des autres tout de suite, et comment justement ensemble, dans la communauté, on peut vivre cet amour et nous donne des pistes extrêmement concrètes pour ça. Alors d'abord, donc c'est avant tout un appel personnel. Alors vous remarquerez que souvent les gens, quand ils sont dans une relation et que la relation pourrait aller mieux, on attend souvent que ce soit l'autre qui change. Et on aimerait bien qu'il fasse ceci ou qu'il fasse cela. Et ça peut être relativement légitime. Mais je crois que la parole de Dieu, et ce texte nous le dit, nous appelle d'abord à changer nous. Et on le voit souvent quand on entend parler de relations de couple. Le conseil qui est donné, c'est avant de chercher la petite bête dans ton époux ou dans ton épouse, prie pour que toi, tu sois transformé, pour que tu sois capable de donner encore plus d'amour. Et c'est vraiment, je crois, ce que ce passage nous appelle à faire. Alors, la première des choses, et qui est frappante, ce passage nous dit, mais maintenant, renoncez. Et Dieu nous appelle non pas à remettre à demain, mais vraiment, je m'invite à vraiment prendre le temps de réfléchir maintenant à comment je peux être transformé par cette parole et pas à me dire « Ah super, mais j'y réfléchirai demain ou j'y réfléchirai plus tard. » Et vraiment, je pense que c'est bon de se poser la question en se disant « Pourquoi remettre à demain ce que Dieu me demande maintenant ?» Et je prends un exemple peut-être un petit peu limité, un petit peu idiot, mais on est en pleine période de ceux qui remplissent leur feuille d'impôt sur un papier ont eu à le faire pour le 31 mai. Et on ne le remet pas au 2 juin. On n'a pas le droit. C'est comme ça, et je crois qu'aucun de nous, dans la mesure du possible, ne dépasse cette date-là. Je crois que celle-là, c'est différent. C'est Dieu qui nous appelle à faire quelque chose maintenant. Et on a un Dieu de grâce, un Dieu qui attend, qui est patient, etc. Mais il nous demande malgré tout de faire maintenant. Alors on ne va pas avoir une punition si on le remet à demain. Mais je crois que vraiment, c'est quelque chose à prendre avec sérieux, cet appel. Ensuite, donc, ce qu'on voit dans ce passage-là, on a beaucoup de verbes qui nous disent « renoncez, revêtez-vous », qui sont, en fait, quand on passe un petit peu de temps dessus, on dit « mais il y a vraiment un appel à une prise de décision, à un acte de volonté ». Et je crois qu'il est vraiment important de faire un point, c'est ce que nous dit ce passage, sur nos faiblesses, et de dire pour le Seigneur ce sur quoi nous voulons prendre position. Et donc on a un certain nombre de choses qui nous sont listées dans ce passage. Et Dieu, à travers l'apôtre Paul, nous demande, on peut le regarder ensemble, de réfléchir et de renoncer à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes. Il nous demande de ne pas mentir les uns aux autres. Et dans un sens peut-être plus positif, il nous appelle à beaucoup de bonnes choses. Alors j'aimerais juste qu'on prenne un tout petit temps pour réfléchir à ces mots justement. Colère, animosité, méchanceté, calomnie, paroles déshonnêtes. Animosité est parfois traduit par irritation. Alors je crois, et on a une certaine bénédiction dans cette église de plaisir où effectivement je crois qu'on peut se réjouir de voir qu'il n'y a pas de méchanceté. On peut en trouver malheureusement parfois dans les églises. n'y a pas de calomnie, etc. Et je pense que vraiment, il y a un appel fort à faire attention, à veiller à ça dans l'amour pour l'Église. Et un mot en tout cas qui personnellement m'a fait réfléchir, je pense que c'est bon de s'arrêter de se dire pour moi. Est-ce que j'ai sujet à être un peu colérique? Alors, on pense à l'Église, on peut penser au-delà, on peut penser à notre famille, on peut penser à notre travail. Est-ce que j'ai tendance à être colérique et est-ce qu'il y a quelque chose à travailler là? Je pense que on a vite fait, et si vous avez déjà eu l'occasion de lire un livre que je vous conseille de C.S. Lewis, qui a entre autres écrit, si je ne me trompe pas, le Seigneur des Anneaux, et non pas le Silence des Agneaux, j'ai toujours tendance à mélanger,
C'était son
donc qui est
ami.
un auteur extrêmement connu, qui a écrit énormément de... Non, c'est le Royaume de Narnia, c'est... Voilà.
Et son ami qui a
Et
créé
c'est
Tolkien.
Tolkien qui a écrit... Et donc C.S. Lewis, donc, qui a écrit Le Royaume de Narnia, donc, qui a été un film connu, etc. Ce même C.S. Lewis a écrit un livre qui s'appelle Les Tactiques du Diable, et bon, qui est quelque chose de complètement romancé et inventé, mais qui explique comment Satan écrit à un apprenti Satan en lui disant comment il doit travailler vis-à-vis de son protégé, qui est quelqu'un qui est en train de se convertir. Et il insiste en lui disant, essaye de faire qu'il s'énerve. Essaye de faire qu'il va remarquer que la cravate est de travers, que les chaussures sont mal cirées, qu'elles crissent sur le sol. Essaye de faire en sorte qu'il remarque tous les petits détails qui vont l'énerver et qui vont faire en sorte que la communion va se... Et je crois qu'on peut être très facilement sujet à ça. Alors, bien sûr, il y a des gens qui vont pas jamais nous énerver. On est en admiration et je crois qu'il y a des gens comme ça dans l'Église et c'est tant mieux. Et c'est une bonne chose. Et je pourrais vous en citer quelques-uns à plaisir où je me dis waouh. Quel exemple. Et peut-être d'autres, et j'ai le souvenir d'une personne dans mon église précédente qui avait, je l'avoue, tendance à m'irriter. Et c'est comme ça. Et je crois que Dieu nous dit, là, il y a un effort à faire. Et comme Bob le disait, aimer ceux avec qui c'est facile, qu'est-ce qu'on fait de différent de ce que font les autres, quoi? De ce que font nos collègues de travail, bah tiens, je m'entends super bien avec lui, je vais aller manger avec lui, super. C'est pas bien difficile. Mais par contre, se dire, c'est mon frère en Christ. Dieu me demande de travailler, de aller chercher, travailler l'amour. Et ça se travaille. Et par rapport à cette personne justement, avec qui j'avais des difficultés, j'ai vraiment eu à cœur de prier il y a quelques années pour cette personne et j'ai appris à avoir du plaisir à être avec cette personne, à regarder ce qu'il y avait de beau en elle, et finalement, bah, j'ai fini par voir ce qu'il y avait de beau en elle, et à l'apprécier réellement, et à vraiment avoir du plaisir à être avec. Et je crois que ça paraît curieux parce qu'on se dit, mais l'amour, ça se crée pas. Bah si, l'amour, ça se travaille. Et d'ailleurs, justement, donc, on voit que Dieu nous appelle, et là, donc, il nous appelle à renoncer, et il nous appelle à... Et ce passage est fantastique. Revêtez-vous, alors la traduction là est aussi frappante, d'entrailles de miséricorde. Entrailles de miséricorde, c'est pas juste soyez gentiment indifférent ou montrez un petit peu d'affection. Non, d'entrailles de miséricorde. De bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, pardonnez-vous réciproquement. Donc on a toute une liste d'encouragements, d'exhortations. Et qui nous disent, par exemple, pour la bienveillance, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut qu'on se connaisse. Comment être bienveillant si je ne sais pas ce qui se passe dans la vie de l'autre? Et si je ne me préoccupe pas de lui? Et je pense que là, vraiment, on a une invitation à passer du temps ensemble, à s'inviter les uns les autres, à partager, à écouter, à prier. Dieu nous appelle à l'humilité. Et je crois vraiment que cette humilité nous dit, l'autre est au moins aussi important que moi, donc je vais m'asseoir et je vais l'écouter. Et pas pour savoir ce qui se passe chez lui, mais vraiment pour pouvoir partager avec lui, pour pouvoir être encouragé par ce qu'il va me dire et pour pouvoir être capable de l'encourager. Et toujours dans mon église précédente, j'ai été impressionné par une personne qui a toujours eu cette faculté. Il vient vers vous, il commence à vous demander comment ça va, vous parlez pendant une demi-heure, et il est là, il vous écoute, et vous voyez qu'il a envie de vous encourager, et il vous encourage réellement. Et puis à la fin, vous dites, mais toi, comment ça va? Et pendant tout ce temps-là, il a été à l'écoute, à l'écoute, à l'écoute, à l'écoute. Et c'était vrai, enfin, il était comme ça avec tout le monde. Et je crois qu'il y a un vrai exemple à suivre, justement. Il y a ces gens qui ont cette faculté qui est naturelle, mais là, je pense que pour d'autres, elle demande à être vraiment travaillée pour se mettre dans l'écoute, parce que l'autre est au moins aussi important, il a au moins autant à nous apporter que nous. Et que ce soit d'ailleurs partager des moments de souffrance ou partager des moments de joie, je crois que partager des moments de souffrance avec d'autres, ça nous fait aussi grandir, et c'est important. Dieu nous appelle aussi à la douceur dans nos propos et dans nos attitudes. Donc, je pense que je suis quelqu'un qui a besoin d'être encouragé à la douceur. C'est vrai qu'on est dans le monde, il faut que ce soit efficace, il faut que ça roule, etc. Et je pense qu'on a tendance à vouloir que ce soit un petit peu la même chose dans l'église. On a envie que ça roule. Mais je pense que Dieu nous dit, hop, hop, hop. Tu peux effectivement encourager, tu peux exhorter, etc. Mais faisons attention à nos mots, faisons attention à nos attitudes. Et vraiment montrons de l'amour systématiquement à chaque fois qu'on a moyen de montrer de l'amour. Montrons de la patience. Donc qui va avec cette douceur aussi. Là, il y a tout un programme, je crois, qui va justement à l'encontre de l'irritation. C'est pareil, je crois que dans une relation de couple, si la moindre petite chose qui nous fait nous dire « Ah, m'énerve !» si on prend un tout petit peu de distance en se disant « Je vais prendre un tout petit peu de patience, un tout petit peu de temps », l'irritation redescend et on peut communiquer. Et je crois vraiment que cette patience, elle est fondamentale dans une relation à deux, elle est fondamentale dans une relation de couple, et elle nous est demandée là, et elle amène cette même patience à pardonner, parce qu'on va pardonner la petite chose qui nous énerve, et puis on va apprendre à pardonner, et on va continuer à rentrer dans une relation où la règle va être la patience, va être le pardon. Donc vraiment, je nous invite à prendre ce temps pour vraiment... réfléchir à quel domaine de ma vie, par rapport à ce qui est listé dans cette parole de Dieu, dans quel domaine de ma vie est-ce que j'ai besoin de travailler. Alors, encore une fois, ce qui est impressionnant, c'est que Dieu nous demande de faire un effort, il nous dit renoncez, vous êtes en dépouillé, mais malgré tout, on peut se demander quelle est la source de cet amour et où est-ce que je vais aller trouver l'énergie pour faire ça. Et ce qui est frappant, on le lit dans ce passage, on nous dit qu'on a été revêtu de l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Alors, la première des choses, je pense que, donc je reviens un tout petit peu en arrière, l'acte de volonté, il est juste logique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas continuer à vivre en se disant « je suis converti, donc je suis un homme nouveau ». Le jour où j'ai été converti, Dieu m'a dit que j'étais un homme nouveau et j'ai pris une décision, et puis après dire « je m'arrête là, j'avance plus, je progresse plus ». Non, Dieu nous dit « on va de l'avant ». Et donc c'est vraiment une logique que de dire je vais faire ces actes de volonté ». Et la deuxième partie, c'est on voit l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance. Et on voit l'importance de ce qui avait été dit la fois passée, de ce qui a été apporté par Johan aussi, l'importance de sans arrêt demander à Dieu de retravailler dans nos cœurs. Donc de travailler cette relation avec Dieu qui est vraiment la source de tout. Et de même que si la peau de notre corps ne se renouvelle pas, et si effectivement ça arrivait, je pense qu'on serait pas bien joli à voir, de même on a besoin d'être renouvelé continuellement dans la relation avec Dieu. Et on voit que si on n'a pas cela, si on ne se retrouve pas dans la connaissance de celui qui est avec nous, on va de moins en moins fait lui ressembler. Et je crois que j'avais déjà partagé ça, mais je trouve ça toujours frappant de voir comment un enfant de 25 ans ou 30 ans peut ressembler à son papa ou à sa maman de 20 ou 25 ans de plus ou 30 ans de plus, et de voir comment le fait d'avoir vécu ensemble fait que les personnes réagissent parfois de la même façon, et on va trouver un beau sourire dans cette famille. Ils ont l'habitude d'être comme ça, et quelque part, les parents ont déteint sur les enfants. Et de la même façon, je crois qu'un quand on a un patron qu'on aime bien, qui nous impressionne dans ce qu'il fait bien, on finit par apprendre à faire les choses de la même façon, Et ça se fait naturellement quelque part parce qu'on regarde et on fait, wow, c'est impressionnant, et on essaye de faire la même chose. Je crois que être dans la présence de Dieu, lire la parole, écouter, partager ensemble, travaille notre nature pour qu'on devienne justement plus aimant. Et enfin, dernière idée par rapport à d'où vient cet amour, je crois que quand on connaît cet amour, qu'on y pense, qu'on y réfléchit, qu'on se dit « j'ai eu tant d'amour, je reçois jour après jour tant d'amour de la part du Seigneur. Il est allé me chercher là où j'étais, il m'a sauvé, il m'a pardonné, il me pardonne encore, et je continue de faire tellement d'erreurs, de bêtises, et malgré tout, il continue de m'aimer. Et il continue de me parler. » Et quand on fait l'expérience de cet amour-là, je crois que naturellement, ce même amour doit rejaillir. Alors bien sûr, on n'est pas encore... au niveau, et justement, on doit travailler, etc. Mais là encore, réaliser combien cet amour est grand de la part de Dieu nous fait avancer. Donc voilà pour cette première partie et l'importance pour que l'amour se développe dans l'Église, que nous, à notre niveau, on se dise « je vais avancer ». Alors, dans cette marche vers le sommet, Dieu nous dit, et c'est une grâce de sa part, que nous ne sommes pas seuls. Et pour moi, c'est vraiment une grâce de pouvoir être avec vous ce matin, et pas seulement ce matin, justement, mais quelque part le plus souvent possible. Et ça doit surtout pas être vu comme quelque chose qui va entraver notre marche, mais parce que, justement, il y aurait des difficultés. Mais on doit travailler à ce lien de la perfection, comme l'appelle l'apôtre Paul. Alors la grande question par rapport à ça, c'est comment est-ce qu'on entretient cet amour ensemble et comment est-ce qu'on va grandir, être plus fort tous ensemble. Et ce passage répond de façon assez simple, qu'on connaît certainement, mais je pense qu'il nous permet de valoriser encore plus ce qu'on peut vivre tous les dimanches, ce qu'on peut vivre dans l'Église. Et j'espère va nous donner envie vraiment de le vivre plus fortement, en étant plus engagé, et en cherchant vraiment à vivre, pas seulement le dimanche, mais quelque part, dès qu'on peut. Et la première des choses que nous dit ce passage, par rapport donc à la vie groupe plus avant, c'est que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Donc on nous appelle vraiment à travailler à la paix. Donc pour moi, c'est un petit peu ce qu'on a déjà vu, c'est travailler sur moi, pour que finalement toutes les choses se mettent naturellement en place au sein de l'Église. Donc travailler à la paix. Le passage nous dit « soyez reconnaissants ». Et je crois que vraiment quand ce passage nous dit « soyez reconnaissants », il nous appelle à être reconnaissants ensemble, en groupe. Et je crois que c'est vraiment important de savoir dire les choses, de savoir être reconnaissant pour de l'amour qu'on a reçu d'un frère ou d'une sœur, savoir partager quelque chose de fort, de puissant qu'on a vécu pendant la semaine, savoir à la rigueur écrire un mail pendant la semaine en disant « j'ai vécu ça, merci Seigneur ». Et de pouvoir vraiment s'exhorter les uns les autres de cette façon-là. Le troisième point, et ça a l'air d'être vraiment fondamental, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. On voit là, dans l'Église, la place fondamentale qu'il faut laisser à la parole. Et je crois que c'est Bernard qui priait tout à l'heure en demandant vraiment à ce que cette parole puisse porter son fruit, à ce qu'on y donne toute son importance. Et je crois que dans la vie, on a sincèrement envie d'entendre Dieu. Je pense que beaucoup d'entre nous, on est conscient que Dieu est grand, tout-puissant, qu'il sait toutes choses et qu'il peut nous apprendre tellement de choses. Et on voudrait vraiment qu'il nous parle. Et je crois que souvent, c'est, je pense vrai pour moi, on a cette parole, la Bible, qui est quand même on peut y passer du temps. Et je nous pose la question, quelle énergie est-ce que l'on démontre au Seigneur pour écouter réellement sa parole? Alors on aimerait bien que Dieu nous parle, on va prier et Dieu va nous parler, ça va être la révélation. Mais on a cette parole de Dieu qui est inspirée, qui est tellement riche. Et finalement, on va passer 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure sur la parole. Et puis voilà. Et je crois que Dieu nous demande vraiment de valoriser cette parole comme sa parole justement. Vivante, sa parole qui va nous transformer. Et c'est la période de Roland-Garros en ce moment. Quelque chose qui me frappe, c'est de voir l'intimité entre les joueurs et leur coach. Parce que vous avez remarqué, quand il y a un moment difficile, le joueur se retourne vers le coach et on voit ses regards et on voit qu'ils sont là, ou alors la famille qui est autour. Et je crois vraiment que dans cette marche vers le sommet, Dieu est vraiment notre coach et a cette parole qui nous aide, qui nous permet d'avancer. Et Dieu nous demande, dans les moments de joie, dans les moments de difficulté, etc., de nous retourner vers lui et de travailler à cette intimité où quelque part les regards se comprennent. Il y a un terme qui est extrêmement fort, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment et qui va dans ce sens, c'est-à-dire c'est pas juste quelque chose qui est dimanche, c'est vraiment un état permanent, ça n'est pas quelque chose de passager. Et Luther écrivait par rapport à ce passage, il disait qu'elle demeure en vous, cette parole, non pas comme un hôte qui y passe un jour ou deux, mais comme un habitant de la maison qui n'en sort jamais. Et donc bon, c'est ce que disait Johan il y a 2 semaines aussi, en disant que cette parole habite en nous, soyez comme un arbre, c'est le psaume 1, planté près du ruisseau. Mon dernier point est l'importance de s'instruire et de s'exhorter par le chant. Alors, tout d'abord, par le chant, je crois que je relisais quelque chose en préparant ce message, et le commentaire qui était donné pour ce passage-là, donc instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels. Donc ce que je disais était la chose suivante: toute joie de l'esprit divin parvenue à un certain degré s'exprime par le chant. Et je crois vraiment que parfois on est bouillonnant de joie justement et on a envie de chanter. Et Jacques 5, verset 13, nous dit que cette joie ne doit pas rester enfermée au-dedans, mais que cette joie doit sortir. Et un des moyens les plus forts, les plus efficaces de faire sortir cette joie, c'est justement avec le chant. Et donc ce commentaire disait, en prenant son essor dans des chants religieux pleins de sentiments, de spiritualité, d'intimité, elle se communique à d'autres, devient un puissant moyen d'édification et contribue à la gloire de Dieu. Et on voit par cette exhortation que le chant fut en usage chez les fidèles dès les premiers jours de l'Église. Pline écrivait à l'empereur Trajan, en lui rendant compte des mœurs des chrétiens, ils chantent entre eux des cantiques à Christ comme à leur Dieu. Et donc ils se servaient sans doute pour cela des psaumes de la Bible, auxquels l'Esprit donnait une vie nouvelle, mais l'apôtre mentionne aussi d'autres chants religieux sous les noms d'hymnes et de cantiques spirituels, qui malheureusement ne sont pas parvenus jusqu'à nous, mais on a les psaumes, on a des chants qui sont extraordinaires, et on a des cantiques qui nous accompagnent vraiment au jour le jour et quotidiennement. Et enfin, donc, je voudrais revenir sur les mots instruire et exhorter les uns les autres. On est vraiment une famille, et comme je le disais tout à l'heure, je crois que chacun a quelque chose à apporter. Chacun peut apporter un encouragement, et on est tous en train de marcher vers ce sommet, et on a tous besoin d'encouragement. Alors certains ont peut-être l'air d'être plus forts, de marcher mieux, mais je crois que ceux qui se sentent plus faibles, d'abord ne le sont pas forcément, ils sont peut-être juste un peu plus objectifs sur eux-mêmes. Mais ce qui est clair, c'est que chacun a la possibilité de faire avancer les autres. Alors ça peut être par un petit SMS de « je pense à toi, je prie pour toi ». Ça peut être à travers un email, ça peut être à travers un partage le dimanche matin, ça peut être à travers un coup de téléphone, une invitation à dîner ou à déjeuner. Mais vraiment, je crois que c'est vraiment un appel pour chacun. Et je voudrais lire avec vous Éphésiens chapitre 4, verset 25 et jusqu'au verset 32. C'est frappant de voir dans cette lettre aux Éphésiens combien cette lettre ressemble, en tout cas pour ce passage-là, à Colossiens. Donc chapitre 4, verset 25, c'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, comme le disait Bob tout à l'heure, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille, en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans les besoins. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Donc je relis ça parce que c'est tellement important. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés par le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Qu'on a vraiment un appel fort du Seigneur à travailler à cet amour. Comme Bob le disait tout à l'heure, à savoir dire la vérité aussi. Et si quelque chose vous a blessé, si quelqu'un vous l'a blessé, dites-le. Mais dites-le dans l'amour. Non pas en cherchant à rentrer dans l'autre, mais vraiment en disant « j'ai ressenti quelque chose ». Soyez prêt à accepter que quelqu'un vienne vous voir pour vous dire aussi « là, tu m'as blessé ». Ou peut-être est-ce que tu peux considérer les choses comme ça, là encore dans l'amour. À accepter dans l'amour. Toujours dans le but de ne pas choquer, de ne pas attrister l'autre. Et vraiment, encourageons-nous. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé cette vidéo qui s'appelle « Les yeux dans les bleus », qui est en fait un caméraman qui avait suivi l'équipe de France de football en 98. Et il y a un passage que je trouve extrêmement étonnant dans cette vidéo. C'est comment un des joueurs, qui s'appelle Didier Deschamps, à la mi-temps, alors que c'est quelqu'un, quand vous le voyez, il n'est pas très grand, il ne paye pas de mine, qui allait voir à la mi-temps chacune des personnes de l'équipe. Et il était, voilà, ça tu peux faire comme ça, ça tu devrais faire comme ça, etc. Mais dans une attitude d'humilité qui est absolument extraordinaire. Et quand on regarde la carrière de cette personne, il a tout gagné. Il a gagné la Coupe du Monde, il a gagné la Champions League, etc. Enfin, tout ce qu'on peut imaginer gagner quand on est footballeur, il l'a gagné. Et je pense que cette attitude d'aller vers les autres, dans l'humilité, dans l'encouragement, dans l'exhortation, en disant la vérité aussi, parce que juste dire c'est génial ce que tu fais sans expliquer ce qui peut être amélioré, on va pas aller bien loin. Et je crois vraiment que une autre image, désolé pour les non-sportifs, mais que je trouve extrêmement forte, on va changer de sport, on va prendre le volleyball pour ceux qui aiment. Je suis impressionné par l'ambiance qu'il peut y avoir dans les équipes de volleyball, où à chaque fois qu'un point est gagné ou perdu, les 6 personnes viennent, se touchent la main et s'encouragent. Et c'est vraiment quelque chose, je trouve, qu'on peut imaginez pour l'église qui est, on se retrouve le dimanche matin, on s'encourage. Il y a peut-être eu des choses difficiles, il y a peut-être eu des moments où on s'est un peu irrité et on en veut peut-être à quelqu'un, mais on arrive au milieu et on s'encourage. Et c'est vrai le dimanche matin, c'est vrai en semaine, etc. Alors en conclusion, une église, je crois vraiment, a toujours des domaines où elle peut progresser. Et quelle qu'elle soit, une église n'est jamais parfaite. Je crois que c'est une règle, dans la mesure où elle est humaine. Mais Dieu chérit son Église et il souhaite vraiment la voir progresser, et c'est pas pour rien que Paul a écrit autant d'épîtres adressées aux Églises, justement. Et je crois qu'en tant que membre de cette Église à plaisir, étant membre d'une Église à plaisir, nous faisons partie de l'Église avec un grand E, et c'est une petite partie de l'Église avec un grand E qui vit ici. Et je crois vraiment que nous avons la responsabilité de chercher à faire de cette église, une église qui avance, qui progresse et qui va être de plus en plus belle vue de Dieu. Et qui va grandir en maturité. Alors, on s'est rencontrés avec le conseil dernièrement, on a réfléchi un petit peu, et c'est vrai qu'on essaye de réfléchir à où est-ce que l'église est forte, où est-ce que l'église est peut-être moins forte, où est-ce qu'elle a besoin de progresser. Et on s'est dit que on avait peut-être besoin de travailler un peu plus l'amour entre nous. Ce qui ne veut pas dire que il n'y a rien et que ça ne se passe pas bien, mais je pense vraiment qu'on a une bonne zone de progrès ici. Et donc vraiment, je nous encourage chacun à réfléchir Comment est-ce qu'on peut progresser? Ce qui est amusant, c'est que donc on s'est vu samedi dernier et j'avais commencé à travailler sur ce passage-là bien avant. Et qui était la suite logique des différents passages, de la façon dont l'épître aux Colossiens est découpé. Et quelque part, on se dit ça samedi dernier au niveau du conseil, et le message précisément de ce dimanche est sur l'amour. Et je crois qu'on a tous vécu quelque chose de dur qui nous a attristés ces derniers jours. On était nombreux, et ça a été une belle démonstration d'amour mardi dernier pour accompagner la famille de Lily. Et vraiment, l'église de plaisir a répondu présent. Et bravo. Bravo à ceux qui ont pu se libérer. Ceux qui n'ont pas pu, il y a probablement une bonne raison, et le principe n'est certainement pas de pointer du doigt, mais vraiment de souligner le fait que c'était une belle démonstration, et je crois vraiment que la famille de Lily et Igor ont été touchés. On a eu un petit repas ici après, et on a vu des gens repartir avec un sourire, et c'est certainement extrêmement difficile, mais je crois qu'il y a eu quelque chose de bon, une belle démonstration d'amour. Aussi, je crois que Lily va nous manquer, elle nous manque déjà. Et on en a parlé avec Denis, c'est que Salomé en a parlé un bon moment avec Estelle. Salomé a fait un beau témoignage donc au moment de l'ensevelissement de Lily. Et je crois sincèrement que Lily était un exemple d'amour, justement, impressionnant. Et vraiment, ma prière pour moi, et c'était la prière de Salomé, c'était son témoignage devant le cercueil de Lily, et vraiment que nous prenions cet héritage de Lily. Et si ne serait-ce que 10 d'entre nous arrivent à se rapprocher un petit peu du niveau auquel Lily était en amour, je crois que là, il va se passer des choses. Et je pense que vraiment, il faut prendre cet appel avec sérieux. Beaucoup d'entre nous, je pense que chacun d'entre nous se demande pourquoi Dieu a appelé de cette façon-là. Mais je crois qu'une des réponses, c'est vraiment de dire... Il y a peut-être certainement un héritage à prendre. J'ai à monter d'un niveau. J'ai des beaux sourires à faire comme Lily faisait. J'ai à accueillir chacun comme Lily faisait. Vraiment, donc, prenons Lily comme exemple. Prenons le relais. Et je crois sincèrement que si c'est le cas, cette église va grandir encore plus. Voilà, donc suis-je solidaire de cette église? Que j'ai envie de faire avancer tout cela pour la gloire du Seigneur. J'ai bien dépassé le temps, je m'en excuse. Donc je vais laisser pour vous pour une prochaine fois, peut-être pour le prochain culte. J'avais envoyé un petit mail cette semaine en vous demandant à ce que vous puissiez réfléchir à un chant ou plusieurs chants qui vous tiennent particulièrement à cœur, qui vous ont aidé dans des circonstances ou qui vous aident aujourd'hui. Donc, je vous invite à continuer à y réfléchir. Et puis, pour mettre en application cette parole, à être prêt à partager la semaine prochaine, dimanche prochain, justement autour d'un chant qui vous a touché peut-être tout particulièrement. Donc, n'hésitez pas par ailleurs l'envoyer par mail. On pourra peut-être essayer de l'intégrer dans le culte. Et je crois que ça peut faire un beau bouquet de chants. Voilà. J'invite à prier. Ô Seigneur notre Dieu, je te demande vraiment de travailler dans nos cœurs, de nous donner envie d'avancer vers ce sommet. Que nous puissions, Seigneur, à la fin de notre vie, arriver vers toi et que tu nous dises que nous avons combattu le bon combat. Que tu nous dises, c'est bien bon et fidèle serviteur. Seigneur, tu nous appelles chacun individuellement, personnellement, à faire preuve de plus d'amour. Tu nous appelles à renoncer à certaines choses. Tu nous appelles à être transformés, à faire preuve de plus d'amour. Et tu nous dis, Seigneur, que tu vas nous aider. Mais tu nous dis, Seigneur, que nous devons prendre une décision sérieuse. Seigneur, je te prie pour cette église. Je te demande vraiment que nos liens se resserrent. Je te demande vraiment que nous ayons soif de passer du temps ensemble. Que nous ayons soif de grandir ensemble. Que nous ayons soif de connaître ce qui est difficile chez l'un ou chez l'autre pour que nous puissions l'aider, pour que nous puissions l'encourager. Que nous ne soyons pas, Seigneur, timides ou en nous disant « ça ne sert à rien de toute façon de partager ». Mais au contraire, Seigneur, que nous ayons peut-être cette humilité, que nous ayons cette foi en toi pour aller tout simplement vers une personne peut-être. En disant « voilà, j'ai besoin que tu pries pour moi là-dessus, j'ai besoin d'aide ». Et c'est vrai que c'est aussi une preuve d'humilité, oh mon Dieu. Mais Seigneur, tu nous demandes de mettre en œuvre ta parole, tout simplement. Vraiment bénis chacun d'entre nous. Je veux penser encore, Seigneur, ce matin, tout particulièrement à Igor et à la petite Anne. Seigneur, donne-nous encore une fois en tant qu'Église de persévérer dans la prière pour cette famille. Et Seigneur, vraiment garde chacun. En ton nom, Seigneur, et pour ta gloire. Amen.